Bonjour, bienvenue à bord de la navette. Prenez place, installez-vous confortablement. Vous êtes avec nous pour une heure de voyage. C'est parti, prenons la route, partons en mer.
Navette.
Oui, je sais. Machine à laver.
Une navette, c'est la fleur d'oranger, ça représente bien Marseille et le four des navettes qui est là-bas à la rue Sainte. Du coup, c'est un produit de chez nous.
En bon gourmand qu'il est, il a bien résumé. Pour moi, ça serait plus les trajets quotidiens dans Marseille, justement, qui relie, qui fait notre petit quotidien, justement, la navette.
Bah, c'est bien un biscuit, une navette. Biscuit, Marseille, avec du Nutella dedans, des fois. Voilà.
De cette émission Primed, le festival de la Méditerranée en images qui s'est déroulé toute la semaine à Marseille et qui se termine demain avec une dernière projection des films primés à la bibliothèque Alcazar. Nous avons sélectionné deux films pour cette émission qui nous emmènent tous deux en Tunisie. Un premier film, Bizerte, histoire en spirale, réalisé par Michel Copari et Francesca Zanoni, et le second, Les amoureux des bancs publics, La rue qui résiste avec l'art, de Gaia Vianello et Juan Martín Baigorria. Nous recevrons ensuite Sandrine Delrieux, sophrologue sophro-analyste, qui sera avec nous pour prolonger la réflexion autour du phénomène de radicalisation, un thème que l'on retrouve en filigrane de ces deux documentaires. Sans plus tarder, traversons la Méditerranée. Tunisie, à seulement 250 km de l'Italie, une ville particulière, un peu moins touristique que les autres, un passé douloureux, le protectorat français, l'oppression qui perdure après l'indépendance, un présent qui n'est pas moins apaisé. Depuis 2011, les mouvements salafistes se multiplient dans cette ville. Michel et Francesca ont commencé à tourner le film en 2016. À travers le portrait de quelques habitants, la ville se raconte. Mohamed, l'écrivain, Khaled, artisan chiite, Dia, étudiant et propriétaire du cinéma Majestic, Samar, une jeune boxeuse.
Nous sommes un peuple qui a vécu en règle générale sous la violence. À la violence répond la violence. Eh bien, il y a tout un peuple qui est pris en otage.
Michel Copari, un des réalisateurs du documentaire Bizerte, histoire en spirale.
Montrer oui, cet aspect de la Tunisie, donc la violence. Mais on ne l'a pas choisi pour montrer ça, mais c'est avec Mohamed, c'est l'un des protagonistes, l'écrivain, parle beaucoup de violence parce qu'il a vécu beaucoup de violence dans sa vie. Et tous les personnages de la vie et la vie même a de la violence à l'intérieur. Nous étions curieux, nous voulions connaître parce que nous avons des amis là-bas et en parlant avec eux, on est toujours intéressé à comprendre comment fonctionne un pays. Et petit à petit, nous étions engagés dans les projets et dans la ville, dans l'histoire de la ville. Donc, cette approche didactique, c'est pour expliquer à quelqu'un qui n'est pas tunisien des étapes très importantes de l'histoire de la Tunisie et de la ville.
Plusieurs moments dans le film, on voit la radio, la télévision. Quel rôle les médias ont dans la Tunisie par rapport à tous ces changements, ces états de crise, de violence
Je pense qu'il y a deux faces en Tunisie pour ce qui concerne les médias. Les médias officiels, qui sont les médias du pouvoir, de la démocratie aussi, mais du pouvoir. Donc l'agence n'est pas très liée à ces médias. Et il y a toute une autre partie, que c'est la partie de Facebook, YouTube, où tu peux trouver beaucoup de formes d'expression d'art, de la musique, surtout de l'hip-hop. L'hip-hop, c'est une grande question de la Tunisie d'aujourd'hui, parce qu'il part vraiment à l'agent. Donc, avec l'hip-hop, tu peux donner beaucoup de messages, par exemple. Dans le film, on a deux tracks, des music tracks d'hip-hop, parce qu'ils sont vraiment populaires. Et donc, il y a deux formes d'expression, une officielle et l'autre pas. Ouais, de YouTube, de l'agent. Il y a vraiment une grande séparation, mais surtout, il y a beaucoup de vie dans l'art. Okay, parce qu'il y a 7 ans qui est terminé une révolution. Ça, c'est vraiment important. Tous les pays essayer, ouais, tous les pays prouver. Parce que 7 ans après une révolution, tout l'argent parle des politiques, parle des musiques, parle de l'art comme une forme pour s'améliorer.
Est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec des personnes issues du mouvement salafiste ou pas du tout?
Au mieux. Oui, mais nous avons choisi de ne pas les montrer parce que c'est vraiment difficile à s'organiser dans ce cas. Parce que si tu es en train de filmer avec une shit, okay, tu ne peux pas filmer, tu ne peux pas filmer avec un salafiste parce qu'ils sont vraiment divisés, surtout à Bizerte. Donc on a choisi de montrer un côté. Okay. C'est une question pratique, parce que si tu vas filmer avec des salafistes, tu entres en contact avec eux et tu filmes avec eux, mais pas avec une shit ou avec des autres. Ils sont vraiment divisés et donc aussi dans les documentaires, tu as cette division.
Okay. Et pour les jeunes, on voit qu'il y a avec le jeune quand même qu'il y a ce projet culturel de cinéma. Et puis, à un moment, je ne sais plus si c'est Samar qui dit qu'elle veut partir, elle veut quitter le pays. On voit vraiment, les deux côtés, une jeunesse qui veut quand même rester aussi en Tunisie. Oui.
Pas tout le monde veut partir. Et Dia et les projets de Majestic, c'est la volonté d'être en Tunisie et surtout de voir faire quelque chose pour son pays. Donc, j'espère que tout le monde peut voir la page Facebook du Majestic parce qu'il n'est pas seulement un cinéma, okay? Il est plein de cinéma. C'est vraiment une place où tu peux être libre. Okay? C'est difficile à comprendre pour nous parce qu'un café, c'est seulement un café, un cinéma, c'est plus ou moins un cinéma, pas beaucoup plus. Mais en Tunisie, un cinéma, c'est aussi un moyen d'être, une place pour être libre. Donc, Dia, du Majestic, accepte vraiment beaucoup de projets qui viennent de l'extérieur, théâtre, cinéma, danse, musique, et surtout des autoproductions. Okay. Donc, pas seulement des films qui vont à festival, Cannes, etc., mais aussi quelque chose de plus petit de la ville de Bizerte aussi. Okay. Ils sont en train d'essayer de faire développer vraiment la culture.
Que les gens, chacun, personnellement, puisse développer...
Oui, un projet d'art. Bien sûr, tu dois choisir. Dia et les garçons de Majestic doivent choisir. Okay?
Chacun doit s'exprimer.
Oui, mais chacun peut faire son projet et à travers les Majestic, les montrer à tout le monde. Ouais. C'est vraiment un moteur.
Social.
Oui. Mais encore, il y a une division parce que qui est cultivé, qui a étudié dans la ville, va au Majestic. Qui n'a pas étudié, pas. Okay, donc, c'est ça l'une des questions entre les plus importantes qui a dit à les garçons de Majestic faire venir au cinéma tous les gens, tout le monde. Pas seulement qui a étudié.
Il est aussi question de culture dans le second film que nous vous présentons, Les amoureux des bancs publics, la rue qui résiste avec l'art, de Gaia Vianello et Juan Martín Baigorria. Ce documentaire a été réalisé toujours en Tunisie entre 2015 et 2016 et c'est Gaia Vianello qui nous explique la naissance de ce projet.
À la fin de 2014, quand j'étais partie en vacances de Noël avec une copine, c'était la première fois que j'ai découvert la Tunisie. Et ce qui m'avait frappée vraiment beaucoup cette fois-là, c'était l'enthousiasme que j'ai ressenti parmi les Tunisiens, mais surtout parmi les très très jeunes. des gens entre 18 et 25. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, peut-être je dois faire quelque chose là-bas, c'est le moment pour le faire. Et donc, j'ai demandé à Martin, qui est le co-réalisateur, si on voulait aller en Tunisie pour un peu voir comment évoluent les rapports entre les citoyens tunisiens et l'espace public. Et on a pris nos billets d'avion pour commencer à faire des tournages. Et la réalité a voulu qu'on a pris nos billets d'avion, sans le savoir, au lendemain des attentats du musée de Bardot. Ce qui a complètement changé tous nos plans. Mais en même temps, ce qui a fait la fortune de ces films, enfin du sujet, parce qu'on a trouvé la Tunisie dans un moment où il y avait vraiment beaucoup d'énergie et c'était une énergie positive. Les gens, ils ont très bien réagi à ces attentats. Ils ont décidé de rester debout, de continuer de confirmer les forums sociaux mondiaux qu'il devait y avoir en mars 2015. Et donc là, pour nous, c'était l'occasion de rencontrer tous les associations, tous les collectifs, tous les groupes politiques, sociales ou artistiques présents en Tunisie. Et là, on s'est rendu compte que vraiment les associations les plus intéressantes, ce qui vraiment marquait la différence, c'était toutes les associations qui travaillaient avec l'art dans l'espace public, donc qui faisaient du théâtre, de la danse, et du chant, du cinéma, et en utilisant l'espace public comme scène, donc de façon que tout le monde, tous les citoyens puissent profiter de l'art et de la culture. Donc on a commencé à rencontrer, à tourner avec des groupes à Tunis. Après, on s'est très vite rendu compte que la capitale n'était pas représentative du reste du pays, et donc on a commencé à aller vers l'intérieur jusqu'aux montagnes à la frontière avec l'Algérie, où on a rencontré beaucoup de groupes et on a vu que même si la situation socio-économique est très différente par rapport à la capitale, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de collectifs, des groupes qui travaillent avec l'art et qui font vraiment la différence dans ces zones-là.
Vous avez senti qu'aussi qu'à la montagne, il y avait aussi cette énergie et des espaces culturels qui sont développés après la Révolution ou avant, je ne sais pas, c'est pas précisé. Mais...
En fait, c'était l'énergie qu'on a retrouvée dans ces endroits-là, dans ces zones-là. C'était beaucoup plus de celle qu'on avait trouvée en Tunis, parce que les conditions, elles étaient beaucoup plus difficiles. Et donc les gens, et ce qui continue à me frapper et à me motiver aussi dans mon travail, ils savent que la démarche est beaucoup plus difficile pour eux parce que les conditions économiques et sociales ne sont pas à leur mieux. Et donc, il faut travailler 10 fois plus pour atteindre ces objectifs.
J'avais l'impression un peu, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, que parfois, comme le garçon de Hard Boys qui parle et qui dit qu'ici, il y a le terrorisme, c'est quelque chose de très mauvais. Et des fois, on a l'impression que c'est un peu qu'il y a deux camps, que c'est un peu l'alternative, soit la culture, soit la radicalisation.
Oui, en même temps, oui, parce qu'il n'y a rien dans ces endroits-là. C'est-à-dire que les travails de recrutement dans les petits villages est très, très répandu. Et ce sont des zones qui, au niveau économique, ils sont vraiment aux genoux parce qu'il n'y a pas de travail, surtout pour les gens, parce que c'est des zones agricoles, donc les gens ne veulent plus travailler dans l'agriculture. Ils essayent de migrer vers la côte, vers les grandes villes, mais au niveau du travail économique, la Tunisie n'est pas dans un de ses meilleurs moments. Et donc, une alternative, c'est vraiment c'est rester dans la rue, dans les cafés, ou faire quelque chose d'accessible comme ça peut être l'art de rue. c'est-à-dire quelque chose pour laquelle on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour le faire.
C'est quand même un documentaire qui donne une image plutôt positive, plutôt encourageante pour le futur. Est-ce que vous aussi, vous le voyez comme ça ?
Oui, mais en fait, c'est les messages que je veux passer dans mes travaux, dans les documentaires que je fais. Car je pense que tous, surtout dans le monde occidental et en Europe, on a besoin de messages positifs. C'est-à-dire on a un peu trop tendance à avoir seulement les côtés négatifs de ce qui arrive. Et c'est ça que j'ai aimé, que j'ai appris en Tunisie, c'est-à-dire eux, ils partent dans des conditions qui sont beaucoup plus défavorisées que la mienne, mais ils ont beaucoup plus d'enthousiasme que moi. Et c'était ça que je voulais transmettre, parce que moi je l'ai senti et je voulais vraiment le partager avec les publics.
Qu'est-ce que le gouvernement, il y a vraiment un paradoxe, le fait qu'il dit que c'est finalement par la culture qu'on peut encourager à lutter contre le terrorisme. Et finalement, il bloque la création de ces espaces. Et du coup, c'est uniquement pour des raisons sécuritaires.
C'est pas des questions sécuritaires. C'est un peu des questions, à mon avis, des contrôles. Donc, il faut des contrôles des citoyens. Donc, on doit contrôler où tous ces jeunes mouvements qui ont né à partir de 2011 vont aller. De l'autre côté, il n'y a pas une vision politique à long terme. C'est-à-dire, maintenant, il y a 6 mois, il y a la Cité de la Culture qui vient d'inaugurer à Tunis. C'est un énorme bâtiment avec des salles, des musiques, une salle pour l'opéra qui a 1300 places. Je ne sais même pas comment ils vont la remplir. Et au niveau technique, c'est super. C'est une salle vraiment qu'on aimerait, nous, l'avoir ici. Mais ils ont centralisé toute la culture à Tunis. C'est-à-dire, pour faire cela, pour faire la Cité de la Culture, ils ont enlevé tous les fonds aux festivals qui allaient se faire à Mamet ou dans les autres villes tunisiennes. Donc, à parole, comme ils disent, nos protagonistes dans les documentaires, ils disent, oui, il faut travailler pour l'accès à la culture dans la lutte contre le terrorisme. Après, ce qu'ils ont fait dans la réalité, c'est enlever l'argent à la décentralisation de la culture pour la mettre dans un énorme bâtiment inaccessible, parce que franchement, dans un bâtiment comme ça au centre-ville de Tunis, les gens du quartier, enfin des banlieues, ne vont pas y aller. Donc voilà, c'est un peu ça la politique d'aujourd'hui en Tunisie.
Gaïa Vianello, une des réalisatrices du documentaire Les amoureux des bancs publics. Un film qui témoigne de l'énergie de la jeunesse tunisienne après le printemps arabe, une soif de liberté, de se réaliser à travers des moyens d'expression artistique diverses, la danse, le théâtre, la musique, autant d'alternatives pour lutter contre l'oubli, l'abandon, l'exclusion, l'obscurantisme et enfin pouvoir exister. Quittons la Tunisie, nous retrouvons pour cette deuxième partie du voyage Sandrine Delrieux, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à bord de la navette. Sandrine, vous êtes sophrologue, sophro-analyste. Vous recevez des patients pour des consultations individuelles à Marseille. Vous êtes responsable du CERES, où vous proposez une approche transversale sur les questions de radicalisation, à la fois sur un plan affectif et idéologique. En matière de prévention, vous mettez en place des formations à la pratique de la sophrologie pour les professionnels du social et de l'éducation qui désirent mener des ateliers avec les jeunes. Vous proposez également, avec 2 autres intervenantes, Florence Lardillon, ingénieure sociale, et Clotilde Audeyer, socio-anthropologue, une formation intitulée « Matière à penser, ressentir et agir face aux radicalisations », dont la prochaine session aura lieu les 23 et 24 janvier au Théâtre de l'Œuvre. Alors avant d'aborder le sujet de la radicalisation plus en détail, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la sophrologie ?
Alors la sophrologie étymologiquement vient de sos, qui veut dire tranquille, serein, phren, la conscience, et logos, l'étude. Donc en fait, la sophrologie, c'est l'étude à la fois en termes de connaissances puis de pratiques, de méthodes et d'approches qui permettent de, justement d'acquérir ou de développer une sérénité de la conscience. Et en fait, la sophrologie a été inventée dans les années 70, donc une époque un peu expérimentale, où beaucoup de personnes, on va dire, d'Occident sont parties en Orient. Et là, c'est Alfonso Caicedo, qui est neurochirurgien, donc qui vient de la pratique médicale d'ici, qui est parti dans les ashrams en Inde étudier en fait les effets de la méditation et du yoga, mais sur la physiologie, sur les émotions, sur le système nerveux, etc. Et ensuite, voilà, y a une méthode qui s'est mise en place, donc qui associe effectivement le travail que l'on peut faire de relaxation une fois les yeux fermés dans le monde intérieur et tous les effets au niveau de la santé, mais aussi au niveau des émotions, de la pensée, et ce qui permet justement, c'est pour ça que j'ai associé à un moment donné la question de la sophrologie avec une approche de certaines violences, parce que ça permet d'avoir accès et de pouvoir calmer le monde intérieur.
Nous parlions au début de l'émission de la Tunisie, la Tunisie qui lutte contre l'intégrisme religieux, mais malheureusement le phénomène de radicalisation est un phénomène plus global auquel beaucoup de sociétés sont confrontées. Alors qu'entend-on par radicalisation, par ce terme-là, et plus particulièrement en France ?
Alors, déjà, depuis 2015, en fait, je pense que beaucoup de milieux professionnels se sont sentis concernés à partir des attentats, que ce soit l'univers du social, de l'éducation, de la recherche, de la culture, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce qui fait que le fait de développer une culture générale sur de nombreux sujets, finalement, est assez important pour tout le monde. Et même si, ben, moi, mon métier, c'est sophrologue, mais je vais également m'intéresser à l'histoire des religions, l'histoire des sociétés. Il y a d'autres domaines qui permettent d'avoir un peu une vision globale et de rester un minimum stable sur des situations qui sont très explosives. Alors, sur le mot radicalisation, je voulais revenir à une période qui a été tragique, c'était le mois de novembre 2015, parce que c'est à ce moment-là que ce mot a explosé dans les médias, même si on pouvait en parler certainement avant. Mais là, il est passé dans tous les esprits. Et le mois de novembre 2015 a commencé avec le Bataclan, avec ce drame-là. En même temps, il y avait la COP21. Donc les enjeux sur la question de l'écologie, donc une autre question de survie, et avec tout un trouble, avec tous les chocs émotionnels liés au Bataclan, sur le fait que la radicalisation, c'était aussi tous ceux qui s'opposaient à des gouvernements. Il y a eu aussi, à cette période-là, deux films qui sont sortis. Le film « Demain », qui est sorti en novembre aussi, 2015, qui, lui, parle de toutes les initiatives citoyennes, justement, pour fabriquer un avenir plus juste, plus équitable, plus écologique, et toutes les innovations dans l'éducation, etc. Et le film « Merci, patron », en février 2016, qui, lui, rappelait toutes les injustices au niveau du monde du travail, de l'économie, la question de l'injustice étant cruciale sur le développement, justement, des violences et de certaines haines. À la même époque, novembre 2015, j'avais entendu qu'il y avait un avion russe qui avait été abattu par la Turquie. Et en sous-texte, donc, il y avait tout le côté géopolitique de tout ce qui se passe au Proche-Orient et avec la place que la Russie a prise après.
La guerre en Syrie, oui.
Ouais. Et la guerre en Syrie. Et 2015, on était encore dans la pleine période où de nombreux jeunes partaient parfois seuls jusqu'en Turquie et rentraient en Syrie ou en Irak pour rejoindre l'État islamique. Du coup, c'est vrai que je voulais reparler de cette période-là parce que le mot radicalisation, en fait, a envahi les esprits à partir de là.
C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, même dans les médias. On ne savait plus vraiment qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot, du coup, de quoi il s'agissait.
Et en fait, les chocs, Charlie Hebdo, ou là, le Bataclan, émotionnels, collectifs, sont très, très forts. Et puis, il y a la question de l'insécurité, de la panique. Et ça nous a renvoyé, en fait, à énormément de confusion et d'ignorance. C'est-à-dire que pour arriver à penser ce qui était en train de se passer, il fallait vraiment accepter que ce n'était pas facile de penser, qu'il n'y avait pas une raison, mais un ensemble de raisons et de contextes qui tiennent à la fois au présent, qui tiennent à la fois au passé. Et du coup, c'est pour ça que les collaborations entre milieux professionnels étaient très importantes. En arrière-fond de 2015, j'avais envie de remonter un petit peu avant, c'est-à-dire sur deux, trois événements qui ont été importants. Derrière, il y a 2005, les émeutes de banlieue, où il y a quand même eu une rage et une détresse qui s'est exprimée d'une partie de la population qui se sent, ce n'est pas qu'un ressenti, délaissé, et que ça nous parlait d'une urgence, et que cette urgence n'a pas forcément été entendue, ou en tout cas que ce qui a été mis en place après n'a pas été opérationnel. C'est un peu ce que j'appelle les rendez-vous ratés de la République par rapport à nos valeurs. 2008-2010, la crise financière, dite crise du système, et effectivement, ce n'était pas un épiphénomène, il y avait une alerte structurelle sur tout notre système mondial, et la grande incantation qu'ont eu plusieurs chefs d'État, c'était Sarkozy à l'époque, il faut moraliser le système. Et je pense qu'effectivement, il aurait vraiment fallu le faire. Parce que les questions socio-économiques sont quand même une trame de fond par rapport à la violence. Une des trames. Puis 2011, les films tout à l'heure en parlaient, Ben Ali dégage. Oui. Donc
printemps arabe. Oui.
Voilà, le lancement de tout ce mouvement qui a traversé plusieurs pays arabes. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, il y avait aussi le mouvement des indignés, Occupy Wall Street, c'est-à-dire que au niveau mondial, ça a été une période où de nombreux citoyens ont signifié et dans la rue qu'ils voulaient un changement de société et en faisant des propositions. Et puis, trois ans après, 2014, la proclamation de la restauration du califat par al-Baghdadi, ce fameux djihad mondial qui appelle à la haine et les séries d'attentats qui s'en sont suivies, avec la question que beaucoup se sont posées, mais pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pu aimanter des jeunes filles, des convertis qui ont foncé dedans, quelque part.
Et justement, lors de ces attentats, ces actes étaient revendiqués au nom de Dieu. Pour beaucoup de personnes, croyantes ou non, les actes et justifications qui ont suivi, ont choqué. C'est écrit dans le Coran, a-t-on pu entendre par exemple. Comment analysez-vous ce type de discours ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir beaucoup de délicatesse pour approcher cette question-là. Parce que le religieux et la violence, ce n'est pas la même chose, mais ça peut s'associer. Voilà. Et du coup, quand je vous disais le fait de travailler avec des personnes, avec des chercheurs, et de plusieurs domaines, pour justement ne pas essayer d'y voir clair, de prendre du recul et aussi de mieux dialoguer entre personnes d'histoires différentes. Alors, c'est vrai que cette phrase, c'est écrit dans le Coran, peut être le démarrage d'une recherche, et aussi pour des personnes qui ne sont pas musulmanes. Mais qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et comment s'écrit un texte qui est devenu sacré pour des millions de personnes? Et la même question peut se poser pour tous les textes sacrés, que ce soit la Bible, la Torah, enfin d'autres, sur tiens, qu'est-ce que c'est l'occasion aussi pour mieux comprendre la situation aujourd'hui, de mieux comprendre tous les récits qui sont utilisés à bon ou mauvais escient. Alors la ressource principale pour en fait pour aborder cette question-là du Coran pour beaucoup. Alors là, je parle indépendamment de la croyance, du fait de croire ou de pas croire. C'est l'approche historique et anthropologique, c'est-à-dire de pouvoir se resituer et nous, à partir d'aujourd'hui, de pouvoir se remettre à la place des personnes qui vivaient dans une société où une religion émerge. Donc là, ça nous ramène au 7e siècle, en Arabie, dans un milieu de tribus, de bédouins qui vivent dans le désert. Alors là, il y a vraiment des chercheurs. Moi, je donne quelques pistes de cet univers-là, mais il y a vraiment des chercheurs qui sont spécialistes de cette question-là. Par exemple, que ce soit Rachid Benzine, Jacqueline Chabi, Hicham Abdelgawad, Guillaume Diff et bien d'autres. Et c'est vrai que ces lectures permettent de recontextualiser en fait les ambiances et les croyances dans lesquelles émerge une religion. C'est-à-dire qu'il y a toujours un rapport au climat. En fait, une fois j'avais lu, ça m'avait sourire, que le monothéisme est né dans le désert, c'est-à-dire là où il y a du « un ». Et pas dans une forêt grouillante d'arbres, de rivières, etc. C'est-à-dire qu'il y a un rapport direct à quelque chose de vaste, de un et un immense ciel, quelque part. Donc ça, c'est la partie, moi, ce qui m'intéresse, et puis par rapport au fait que je sois sophrologue aussi, c'est la partie sensible. Qu'est-ce qui fait que, comment l'être humain construit son rapport à l'univers et à l'extérieur. Donc par rapport aux ressources qu'apportent l'histoire et l'anthropologie, cette société d'Arabie, donc 7e siècle, qui vit dans le désert, dans des conditions de survie qui sont,
difficiles,
voilà, qui sont très dures. Et peut-être j'en reparlerai un petit peu après, dans les conditions de survie des groupes humains font que, par rapport à leur environnement, ils cherchent d'une part à se protéger de ce qui va faire un mal, c'est-à-dire la brûlure du soleil, le manque de nourriture, le manque d'eau dans le désert, qui est très important, et à s'allier à des forces qui vont apporter de la richesse, des chameaux, des hommes forts. Et du coup, ça, c'est tout un univers, en fait, à comprendre, parce que ça participe justement de l'écriture d'une religion en particulier. Par exemple, j'avais lu sur la question de l'enfer, parce que l'enfer revient dans beaucoup de récits de jeunes qui sont partis vers la violence. Il y avait la question, les angoisses liées à l'enfer et le fait d'aller absolument au paradis.
Au paradis, oui,
voilà, quitte à se suicider en tuant des personnes pour être sûr d'aller au paradis. La construction sensible de l'enfer est liée aussi à l'environnement, c'est-à-dire que dans le désert, l'enfer va forcément être lié à ce qui est l'enfer pour un être humain qui se perd dans le désert et qui va cramer sous le soleil, c'est-à-dire la gorge qui brûle, les pierres au sol qui sont brûlantes. Donc là, je ne parle pas, je ne réponds pas à la question est-ce que l'enfer existe ou pas au ciel, mais sur la manière psychologique et sensible dont les êtres humains se mettent en relation avec ce qui leur fait du bien ou ce qui leur fait du mal.
Et les représentations.
Voilà, et avec le fait de s'en protéger et avec les représentations intérieures qui ensuite passent dans un imaginaire collectif. Sur le fait, en fait, ce que je voulais signifier là, c'est le fait qu'il y a des recherches et des apports qui permettent d'aborder la construction de des bases d'une religion, en fait. Quand, puisqu'il y a cette question des origines, de revenir aux origines, le fait de relire, d'étudier cette approche historique anthropologique permet justement de désamorcer certains fantasmes liés aux origines, où la tendance de l'être humain, mais qui que ce soit, est aussi de reconstruire le passé en fonction des besoins du présent. Voilà. Et par rapport aux connaissances à explorer, il y a une deuxième chose qui a été importante aussi, qui est importante à mieux connaître, c'est la question du wahhabisme, qui est en fait un courant beaucoup plus récent dans l'islam, qui est né au XVIIIe siècle avec Abdel Wahhab, et en fait qui a donné un courant particulier, très rigoriste, qui interdit la recherche, le questionnement. Et c'est celui qui s'est associé historiquement avec la tribu des Saouds et donc qui,
le politique.
Et avec le corpus idéologique qui ensuite s'est développé à partir de l'Arabie Saoudite, avec la question du pétrole, donc des moyens pour diffuser cette manière de voir qui est très particulière et qui a pu avoir tendance à envahir un petit peu les esprits.
Et bien justement, sur cette question du politique et du religieux, depuis ces événements tragiques, la laïcité française est remise en question par certains. Y a-t-il une mauvaise compréhension de la laïcité, Sandrine Del Rieu ?
Effectivement, je pense que pour beaucoup de personnes dont j'ai pu faire partie également, pour celles nées en France, voilà, on est dans un pays où les conditions de la laïcité sont normales. Enfin, on ne se pose pas trop de questions, on nous l'apprend un petit peu à l'école, mais voilà, on a juste des notions. Et c'est au moment où quelque chose est attaqué qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et là encore, les ressources de l'histoire sont importantes, parce que c'est une construction dans un pays.
Et à un moment donné aussi. Voilà.
Et y a eu beaucoup de formations un peu en catastrophe depuis 2015, que ce soit pour les professionnels, pour les jeunes, etc., sur la construction de la laïcité. Parce qu'on a pu entendre, notamment, j'ai entendu des jeunes qui pensaient que la laïcité a été inventée il y a quelques années pour lutter contre l'islam. C'est-à-dire que c'était un outil pour lutter contre la religion et l'islam, alors que ce n'est pas du tout, justement, ça n'a pas été créé il y a quelques années, 1905, et que c'est toute une histoire derrière. Alors, d'une part, c'est important que les jeunes connaissent beaucoup mieux l'histoire de France et cette émergence de la laïcité, ce choix historique de séparer les églises en tant qu'institution et l'État, et de laisser la foi dans la liberté de conscience de chacun. Donc la laïcité n'est pas du tout un outil pour lutter contre le religieux. Par contre, elle permet, ce qu'elle ne permet pas plutôt, c'est que les églises, et que ça, n'importe quelle église, viennent organiser en fait l'État. Ce qui est important pour les jeunes, c'est que ces jeunes qui pensaient que la laïcité donc, était là pour lutter contre l'islam étaient dans un sentiment de persécution et de paranoïa. Et là, c'est important parce que ce sont des sentiments justement qui vont provoquer une insécurité, la sensation d'être rejeté et qui peuvent contribuer à des départs ailleurs dans une terre idéale où on ne serait pas persécuté, alors que non, il n'y a pas de persécution.
Mais justement, par rapport, on peut se demander qu'est-ce qui peut orienter un jeune, qui peut pousser un jeune au départ. Et vous parlez justement vous employez le terme de démentation. Pour décrire ce processus, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, effectivement, en 2016, j'avais travaillé sur 3 vidéos que j'avais trouvées sur Internet, puisque Internet a été aussi un objet de questionnement sur tous les contenus qui pouvaient circuler, et 3 objets qui m'ont vraiment posé question et amené à identifier aussi des, entre guillemets, des profils différents parmi les jeunes voilà, qui avaient été aimantés par la violence. La première vidéo, c'est Larossi Abala, c'est le jeune qui a tué les deux policiers à Magnanville en juin 2016 et qui avait fait une vidéo de revendication juste après les meurtres. Et cette vidéo avait circulé sur Internet, mais pas très longtemps. Elle a été enlevée. Mais elle était, à écouter, elle était assez terrible, éprouvante, parce que c'est quelqu'un qui, lui, n'est pas parti en Syrie ou en Irak, donc qui est resté sur place, bon, qui a eu tout un parcours où il peut y avoir de la frustration, des échecs. Enfin, après, je ne connais pas toute son histoire, qui est rentré dans le religieux, mais ce religieux rigoriste. Et dans cette vidéo, il emploie des termes... Il est dans un état complètement émotionnel, enfin, au plafond, enfin, dans un état... je ne sais même pas quel mot employer, parce que c'est intranquille au possible. Mais il emploie un vocabulaire, il parle du paradis, parce que c'est ça l'aimantation, c'est ça son projet, c'est d'aller au paradis, aller au paradis. Et il parle de l'intensité d'une jouissance sans fin. Et ce terme-là, la jouissance sans fin, c'est un peu un signe, on va dire, de psychose, plutôt. C'est-à-dire, c'est l'inconscient, en fait, qui a complètement envahi la conscience de la personne et qui est toute la machine de l'inconscient, toute la pulsionnalité, qui est effectivement comme une machine sans fin et qui n'a pas supporté, en fait, toutes les limites et les cadres qui nous permettent de nous construire dans une société où on n'arrête pas de réguler, en fait, entre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Parce que sinon, on ne peut pas vivre ensemble si on se décharge sans arrêt de toute notre... de toutes nos impossibilités.
Limite,
ouais. Et ce qui est assez surprenant dans cette vidéo, mais qui est vraiment tragique, qui est douloureuse, c'est la souffrance, en fait, la souffrance dans laquelle est cette personne. Et en fait, il y a comme un retournement, c'est-à-dire qu'on peut avoir la sensation qu'il est dans un chaos intrapsychique intérieur énorme, et que le religieux ou les discours là du religieux lui permettent de retrouver une unité. C'est-à-dire ça, à partir du moment où on a une certitude absolue, ça donne une unité. Alors que l'incertitude, il faut pouvoir amortir intérieurement nos doutes, notre recherche. Ensuite, ça donne la sensation que beaucoup d'humiliation qu'il a pu vivre tout à coup en devenant l'élu de Dieu, il rentre dans la dignité absolue, que des culpabilités intérieures, la religion permet de redonner une pureté, enfin, comme une inversion, que le mauvais élève à l'école devienne le savant, qui sait tout sur l'univers, sur Dieu, sur, etc. Que le désobéissant, en fait, au père, au maître d'école, etc., devienne l'obéissant à Dieu. Donc, en fait, il y a un désir d'autorité absolue. Enfin, il y a une inversion, que l'incompris devient prophète, c'est une phrase de lui à la fin. Et du coup, cette vidéo, elle permettait de sentir que peut-être, chez certains, ça n'avait rien à voir avec une conversion spirituelle ou religieuse, mais plutôt avec une conversion psychotique. Et que les discours de Daesh ont su manipuler les fragilités humaines, en fait. Et voilà.
Oui, au-delà des besoins auxquels peut répondre le religieux.
Alors oui, ça, il y a deux. Je vais en parler après, effectivement, qui n'amène absolument pas à la violence. Mais dans l'autre vidéo que j'avais étudiée, qui était intéressante aussi, c'est un jeune Abou Omar Al-Fransi. Pareil, une vidéo sur Internet, et elle y est encore, celle-là. Il témoigne, en fait, c'était en octobre 2016. Il a 28-29 ans, apparemment de famille qui vient de l'immigration algérienne. Et il est parti rejoindre la Syrie en juillet 2014, donc après Al-Baghdadi. Et il fait cette vidéo 2 ans après, qui dure 10 minutes, et où là, il dit... ce qu'il dit, c'est très intéressant, parce qu'il... déjà, il dit pourquoi il est parti. Donc, il y a un mélange de quête spirituelle, d'échapper à ce gouvernement ici français, où il dit un gouvernement ségrationniste. Il mélange le mot ségrégation et sioniste. Et en fait, 2 ans après, il est parti donc avec un idéal d'État islamiste où on retrouvait la justice, la fraternité, c'est-à-dire des valeurs. Il y avait un espoir de quelque chose. Et en fait, une fois là-bas, et il témoigne de ça, et il dit, on nous traite comme des chiens, on sert de chair à canon, on meurt pour rien. Je n'ai jamais vécu l'humiliation, l'injustice et la ségrégation comme j'ai vécu là-bas. Donc lui, il a vu la réalité. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, il juge Daesh, ce qui s'est passé là-bas, avec les critères de la République française parce qu'il a, il a grandi ici. Et en fait, il ne se rend pas compte qu'il est tellement formé à des évidences républicaines. Et c'est son automatisme quand il voit ce qui se passe là-bas. Par exemple, il dit ben, la justice est la loi du plus fort. Il n'y a pas d'enquête, la police. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas... Il n'y a pas de justice. L'éducation, c'est un programme subjectif. Ça veut dire qu'il a une référence avec un programme plus objectif, qui est celui dans lequel il a grandi ici. Et donc, lui témoigne quelque part de sa désillusion complète, même si sa quête spirituelle, par ailleurs, ne s'est pas arrêtée. Mais en tout cas, ce qu'il décrit, et c'est vrai que ce sont des témoignages intéressants, parce qu'on s'est demandé effectivement pourquoi il y avait eu aussi cet aveuglement. Parfois avec des personnes qui avaient des bonnes intentions dans le fond de justice. Après, bon, il y en a qui sont partis juste pour la violence elle-même, sans avoir besoin.
Mais oui, il y a eu aussi des incompréhensions.
C'est très complexe de toute façon. Il y a énormément de... Je pense que suivant chaque cas, chaque personne, les éléments moteurs... De l'intimité sont multiples, mais ce qui est sûr, c'est que ça produit de la souffrance pour les familles, pour les personnes, pour les personnes qui sont tuées dans des attentats. La souffrance, elle est sûre.
Alors juste 2-3 minutes peut-être, vous voulez rebondir sur le fait religieux, sur
oui, j'avais envie de rappeler effectivement, ou de parler de... Il y a une grande ligne. Le religieux n'est pas nouveau, ça ne vient pas d'apparaître là comme ça. C'est à la base, mais très lointaine, avant l'islam, avant... c'est-à-dire que les groupes humains, ce que je disais tout à l'heure, les groupes humains dans la nature sauvage étaient extrêmement fragiles. Donc, à l'origine du lien avec l'inconnu, avec le plus vaste que nous, il y a le fait de se protéger des dangers et des menaces qui, au départ, c'était des menaces climatiques, des tempêtes, des tremblements de terre, la souffrance, la faim, les prédateurs, et de faire alliance avec des forces protectrices. Voilà. Protéger la vie et protéger le groupe. Ensuite, il y a le fait de donner des noms à ces forces-là, c'est-à-dire de nommer une entité en fait qui représente ce qui nous fait du mal et de nommer des entités qui représentent ce qui nous fait du bien. Et ça, en fait, faut pas oublier que c'est et on continue aujourd'hui de demander, quel que soit le nom qu'on y met, à Dieu, de nous protéger, de nous apporter le bien et de nous protéger de ce qui va faire du mal. C'est-à-dire c'est très archaïque dans l'être humain d'avoir ce rapport à l'invisible et à l'inconnu sur la question de la protection. Et ensuite, un autre niveau des religions, à partir du moment où elles se construisent et où elles se racontent, c'est de fabriquer un récit partagé par un même groupe, parce que ça va souder le groupe. La croyance permet de souder le groupe.
D'unir, oui.
Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, d'abord, il y a les récits oraux qui sont transmis de bouche à oreille. Et ensuite, il y a le fait que ces récits s'inscrivent dans un texte en particulier, qui permet aussi à un mouvement religieux de s'étendre sur une plus grande surface. Parce qu'il y a un texte commun. Sinon, ça part dans tous les sens, ça se transforme dans tous les pays. Donc ça, c'est le côté politique, on va dire, le côté organisation sociale, avec des règles de vie, avec des interdits, des permissions, des rituels. Donc le religieux a cette fonction politique de l'organisation sociale, historiquement, enfin, derrière nous. C'est très récent de faire cette expérience de séparer, en fait, le religieux et le politique. Ouais. Ensuite, il y a la question des recherches théologiques, c'est-à-dire sur des questionnements philosophiques ou des questionnements sur la nature de Dieu ou sur l'âme humaine. Donc ça, je dirais, c'est de l'ordre de la recherche et de l'enquête. Et il y a des personnes qui consacrent leur vie et ça n'a rien à voir avec un conflit, avec la société ou avec la violence, etc. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, même pour quelqu'un aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est la question de l'intime, la question du besoin, justement, entre le besoin de protection, le besoin de faire partie d'une communauté, le besoin d'espérer quelque chose au-delà de notre vie sur Terre, un avant, un après, mais que... La réponse absolue, parce que nous ne sommes que des êtres humains et que le silence est intéressant. Et après, l'enquête, la recherche, parce que c'est un domaine de recherche.
On voit que ça appelle justement à des questions multiples et puis que ça mobilise beaucoup de connaissances, beaucoup de disciplines. Donc c'est justement cette approche interdisciplinaire que le CERES défend. Donc avec cette association avec laquelle vous proposez une formation intitulée « Matière à penser, ressentir et agir face aux radicalisations ». Quel est le contenu de cette formation ? À qui s'adresse-t-elle ?
Donc, effectivement, en fait, cette formation, à l'origine, elle avait démarré en 2016-2017, où justement le côté pluridisciplinaire, où nous l'avions amorcé avec un théâtre, le Théâtre La Cité, des chercheurs, et nous l'avions fait... au rectorat dans des établissements scolaires. Donc elle avait été initiée comme ça et puis depuis nous l'avons développée, continuée. Donc en fait penser, ressentir et agir, c'est un peu tout ce que j'ai pu aborder depuis tout à l'heure. Donc dans cette formation qui dure 2 jours, nous développons donc avec Anthropos Culture Associée à la fois une approche côté psychanalyse et aimantation, à la fois une approche du côté de la sociologie et en cherchant aussi comment justement des points d'appui et des ressources sur la question du pouvoir d'agir, sur la question de la construction des adolescents dans une société. Il y a aussi toute l'approche historique et anthropologique du Coran du 7e siècle et toute une partie d'analyse de pratique. C'est-à-dire qu'elle est ouverte à la fois des personnes de l'éducation, du social, des entreprises, qui a envie de venir pendant 2 jours travailler de manière à la fois... voilà, il y a les apports de connaissances, le côté créatif de comment chacun aussi a développé des ressources et comment nous pouvons les partager.
Merci. L'histoire ne fait que recommencer, dit un des protagonistes du documentaire sur la ville de Bizerte que nous présentions au début d'émission. On s'interroge effectivement immanquablement face à toute cette haine, violence. Comment sortir de cette spirale qui semble se répéter de manière presque imprévisible, mais pourtant que rien n'empêche à revenir ? Que pouvons-nous faire et aussi, nous avons vu que la culture jouait un rôle important, mais est-ce qu'elle est suffisante?
Non, la culture contribue forcément parce qu'elle est liée au partage, à la fois au partage sensible, au partage de connaissances, à l'expression. Donc, elle est nécessaire et elle contribue. Bon, par contre, je pense que c'est ce qui va être fondamental, c'est la question des conditions de vie. C'est-à-dire, c'est quand les personnes sont dans une urgence vitale, que les besoins primaires sont en insécurité totale, qu'il n'y a pas de toit, pas de nourriture, pas de lien affectif. Parce qu'il y a les besoins biologiques, mais après, il y a les besoins affectifs de lien, de sécurité affective. En fait, là, y a une base là sur le plan social, économique et sur les conditions de vie. Si ça ne s'améliore pas là, voilà, le reste risque de pas suffire parce que c'est primordial pour tout le monde.
Sandrine Delrieux, merci d'être venue à Radio Galère pour nous apporter votre éclairage sur ce sujet complexe. Nous rappelons que la formation Matière à penser, ressentir et agir face aux radicalisations se déroulera le 24 et 25 janvier 2019 au Théâtre de l'Œuvre. Toutes les informations sont disponibles sur le site du CERES, www.ceres.fr, CERES, C-E-R-E-S-E. Des articles sont aussi disponibles pour approfondir la question des radicalisations, mais pas seulement, aussi autour de la construction de soi et beaucoup d'autres articles. Nous remercions également le festival Primed et les réalisateurs des films que nous avons présentés aujourd'hui, qui ont bien voulu répondre à nos questions. Ces documentaires ne sont pour l'instant pas disponibles en dehors des festivals où ils sont diffusés, mais vous pouvez contacter Gaia Vianello pour les amoureux des bancs publics sur le site de la production 107studio.it. Michele Copali et Francesca Zanoni pour Bizerte Histoire en spirale sont toujours à la recherche d'un distributeur, notamment pour être diffusés lors de festivals ou bien auprès de classes d'étudiants, et non pas vraiment pour le cinéma. Vous retrouverez bien sûr également toutes ces informations sur le site de Radio Galère, sur la page des podcasts de La Navette. Chers passagers, restez avec nous jusqu'au terminus de cette émission, le journal des bonnes nouvelles, tout de suite après Balti et Mister You, Balti Gataga.
عوش هيك يا حومة بلتي مستر يو قطاقة لولاد الحومة اللي مشاو في بابور حراقة قالوا علينا كافية قالوا علينا دبليدة عقلية ارهابية تونس في الدار البيضة شوف في مغربان دي فوق لي كاتاغي راب دو تاغي شغي دو توني صباغي عربي دمي سخون تونسي جزائري مغربي سينو مغربي بتو والصلاة عني بي ايش اشوف الحومة تحب تجيب اللورو من باري زورو ما زطلق في المر البورو جنس دون لكومة حارك في بابورو كل بلاد مشو ما يحبي بدل ديكورو حارق للأوروب عايش فيها كلوندستينو ضربة كازينو رابي دوم الباتشينو دعوة في فرنسا سي لي غاتشينو في الشانزيليزي حومة زاد لا كابوتشينو عربي الرخلة لا 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 جالو تي دو ما باغ تي 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 كي توا بوم دو باتا تا 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 اون روفيان بوغا فالير تا 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 Fallait pas déconner, na 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 na. Fais pas ça, tu nous connais, na 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 na. Balti you gata ta 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 ta. On revient vous rafaler, ra ta 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 ta. À cette heure, si je suis faillant, je crois que je vais me barrer vers Malaga. Vers Tanger ou Hammamet, frater tous les haraga. Je rappelle mes frères au bled qui soient H24 dans la lerga. Qui rêvent devant la mer, l'espoir se lit dans tous les regards. 2016, rien n'a changé, c'est toujours la révolution. Beaucoup de problèmes, toujours aucune solution. Dites-toi, ah, c'est à ma voisine que non, je ne baisserai pas le son. J'en ai besoin pour m'évader. J'ai envie de surfer sur les ondes, liasse de Yébi bien aplati. Ok, c'est reparti, y'a plein de trucs qu'on t'a pas dit. Ougataga Balti, j'roule un star, pépère, j'ai frit sur 2-3-4 plaquettes. J'veux voir toutes les mains en l'air pour faire kiffer les pickpockets. J'tourne en quad dans le désert, j'preux freestyler pendant des heures. La rue là, elle est pour l'entrée, la ville dit elle est pour le dessert. Prochain album sera bien visère, les Heiner, j'la ferai la misère. Les boycotters, j't'en parle même pas, stars, ils sont déjà tous dans le viseur.
عربي الرخلة لا 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 جالو تي فو ما بار تي 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 كي توا بوم دو باتا تا 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 اون ريفيان بوغ فالير تا 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 تا
فالي با ديكوني نا 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 في باس حاب تي نو كوني نا 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 بارتي يو كاتا تا 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 تا
عندك ويلو ويلو خبر حلو
جود نيوز
بصراحة الخضار يتفرح
وين احنا في سياس
وين داقبي
d'achat, les taxes sur le carburant, le mistral glacial et la disparition du créateur de Bob l'éponge, il y a aussi des bonnes nouvelles.
Les voici, les voilà. La France a restitué 26 œuvres d'art au Bénin.
Des statues et des objets sacrés de l'ancien royaume du Dahomey vont être rendus au Bénin suite au rapport Savoie-Sarre rendu le 23 novembre au président Emmanuel Macron concernant justement la restitution du patrimoine culturel au pays africain. Ces objets ont été pillés en 1892 dans le palais de Béhanzin par les troupes d'un général français à Abomey. Elles étaient depuis conservées au musée du Quai Branly à Paris et le Bénin les réclamait depuis 2016. 90 000 objets sont encore concernés par ce rapport.
Il paraît que les festivals d'humour n'ont jamais eu autant de succès qu'en ce moment.
Oui, selon le chiffre du Centre National des Variétés, l'humour serait le premier genre diffusé en France, avec plus de 18 000 représentations payantes en 2017. Les festivals dédiés au rire se sont multipliés ces dernières années.
Et la poésie remporte toujours un grand succès aux États-Unis.
La poésie est une arme d'expression massive dans l'Amérique de Trump. Le National Endowment for the Arts, un peu l'équivalent de notre ministère de la Culture, annonce dans sa dernière étude que la poésie atteint une popularité record, notamment chez les 18-24 ans. La proportion de lecteurs a plus que doublé entre 2012 à 2017, passant de 8,2% à 17,5%. C'est aussi parce que la poésie sait se renouveler, en partie avec les réseaux sociaux. Instagram donne par exemple la possibilité à des milliers d'internautes de s'exprimer en quelques vers. On les appelle même les Insta-poètes.
Ah, ce fameux Instagram. Il est encore question de littérature à Rome, avec le parcours peu ordinaire de Maria Grazia Gallia.
Oui, cette retraitée est devenue bibliothécaire à force d'amasser tout au long de sa vie plusieurs milliers de volumes dans son appartement. Elle met tous ses livres à disposition de ses voisins, amis, et Maria organise de temps en temps chez elle des groupes de lecture qui rassemblent la plupart du temps des femmes qui ne savent pas lire.
On vous signale également que le chiffre d'affaires des radars est en baisse de 15% cette année, sûrement grâce aux gilets jaunes, je ne sais pas.
Quant à l'accord du Brexit, bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de juger. Vous avez très certainement aussi des bonnes nouvelles autour de chez vous. Vous pouvez les partager. Envoyez un mail à l'adresse suivante, louise@radiogalere.org, et nous serons ravis de les rediffuser lors de notre prochaine émission. Rendez-vous alors le 14 décembre, et nous pouvons d'ores et déjà vous révéler le sujet de la prochaine navette, les droits des enfants. Et à bord, nous accueillerons justement des enfants pour en discuter. En attendant, très très belle semaine à vous.
Oui, je sais. Une machine à laver.
Une navette, c'est la fleur d'oranger. Ça représente bien Marseille et le four des navettes qui est là-bas à la rue 5. Du coup, c'est un produit de chez nous.
En bon gourmand qu'il est, il a bien résumé. Pour moi, ça serait plus les trajets quotidiens dans Marseille, justement, qui relie, qui fait notre petit quotidien, justement, la navette.
Bah, c'est bien un biscuit, une navette. Biscuits, français, avec du Nutella dedans, des fois. Voilà.